Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Par exemple, un micro-ondes, son prix comptant, ça va vous coûter 316 €. Et par la location de longue durée, eh bien, ça va vous coûter 731 €.
Et vous, avez-vous un appareil électroménager en location longue durée? Vous l'entendez, l'UFC Que Choisir dénonce un racket. On en parle dans un instant, Pierre, avec l'économiste Philippe Moati.
Deux formes de contestation sociale ce mercredi. Les tracteurs dans les rues de Lille et l'opération Port-Mort à Marseille. Nous sommes à chaque fois sur place.
À partir d'aujourd'hui, 900 000 lycéens et personnes désirant reprendre leurs études peuvent faire valoir leur choix sur Parcoursup, carton pour les infirmiers. Un système pourtant critiqué par des associations comme la FAGE.
Est-ce qu'à la fin de la procédure, les jeunes qui ont candidaté dessus auront la formation de leur choix? Parce que malheureusement, à la fin de l'année, généralement, il y en a qui restent sur le carreau.
La visite d'Emmanuel Macron en Israël pour les commémorations du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Quel regard portent les habitants là-bas sur notre président? Dans ce journal également, la tempête Gloria, situation tendue dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi dans l'Aude à cause des crues notamment.
Le cinéma, puisque c'est mercredi, un parfum de scandale à suivre.
Et le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier après 50 ans de carrière.
C'est quelqu'un qui a été inclusif avant tout le monde. Il a travaillé sur les frontières entre le masculin et le féminin. Ça a été le premier à proposer des jupes pour les hommes.
La météo, Céline Dacosta, deux départements du sud en orange.
Oui, les pluies continuent de s'abattre sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, placée en vigilance orange pour pluie, inondation et risque d'avalanche pour les Pyrénées. C'est l'équivalent de près de 3 mois de pluie qui s'est abattue sur ce secteur depuis 2 jours. L'épisode devrait se calmer demain après-midi.
Merci Céline, on vous retrouve à 12h30, météo complète sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
L'UFC Que Choisir veille sur nous, Pierre. L'association de consommateurs se penche cette fois-ci sur la location longue durée d'appareils d'électroménager.
Et pour faire simple, l'UFC dit que c'est pire que les crédits revolving des années 2000. L'association a reçu plus d'une centaine de signalements, tous emballés par ces offres, des promotions qui d'ailleurs ont bondi de 257% depuis 2008, Maud Descamps.
Oui, alors vous savez, le principe de ces offres est assez simple. Hein, moyennant une somme très modeste que vous versez chaque mois, vous louez un téléviseur, un mixeur ou encore un micro-ondes pendant 3 ou 4 ans en moyenne. Alors sur le papier, c'est une offre séduisante, surtout pour les petits budgets. Ça permet de s'équiper sans trop dépenser. Sauf qu'en y regardant d'un peu plus près, l'UFC Que Choisir s'est rendu compte que le consommateur dépense bien plus que s'il avait acheté le produit comptant, comme l'explique Mathieu Robin.
Par exemple, un micro-ondes qui est proposé par Boulanger Location, eh bien son prix comptant, ça va vous coûter 316 €. Et par la location de longue durée, donc sur une durée de 48 mois, et à l'issue de laquelle vous n'êtes pas propriétaire, eh bien ça va vous coûter 731 €. Donc c'est un surcoût de 130%.
Alors vous l'avez entendu, hein, vous n'êtes pas propriétaire de l'appareil, donc à la fin de votre contrat vous devez le rendre. D'un point de vue écologique c'est évidemment très discutable, hein, puisqu'on va pousser le consommateur à se rééquiper et même à se suréquiper, dit l'UFC Que Choisir. L'association réclame un plafonnement des tarifs appliqués mais aussi plus de clarté dans les contrats qui sont proposés.
Merci Maud Descamps.
Bonjour Philippe Moati.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, professeur d'économie à l'Université Paris Diderot, co-président de l'OPSOCO, l'Observatoire Société et Consommation. La LLD, la location longue durée, elle cartonne dans le secteur automobile. On le voit là aussi pour l'électroménager. Est-ce que c'est un phénomène en progression ?
Très, très lentement, très lentement. En réalité, la location longue durée d'appareils électroménagers, ça ne concerne que moins de 1% des ménages français. Vous voyez que c'est très peu. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu des chiffres de croissance. On partait de très, 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 très bas. Donc, c'est facile d'afficher taux de croissance élevé. Et encore de la réticence pour substituer la location à la propriété. Alors, quand on pose la question aux Français de manière générale, est-ce que ce qui est important, c'est de pouvoir utiliser un produit ou d'en être propriétaire, à 80%, ils vous disent l'important, c'est l'usage. Mais dans les faits, la location peine vraiment à se développer, tout produit confondu d'ailleurs. Sur une durée de 12 mois, nous avons enregistré un taux de pénétration de 16%. Ça veut dire que sur une durée de 12 mois, seulement 16% des Français disent avoir loué un produit, quel qu'il soit, y compris l'automobile.
Y compris l'automobile, oui, parce qu'on dit que la LLD cartonne dans l'automobile.
D'ailleurs, non, il n'est pas certain que pour l'automobile, les gens aient l'impression d'avoir loué la voiture. Vous voyez, parce que il y a un continuum entre la location pure et dure, comme on vient de l'entendre sur le four à micro-ondes, qui se substitue à une vente à crédit en réalité. Hein.
Bien sûr.
Et quelque chose qu'on appelle l'économie d'usage ou l'économie de la fonctionnalité, où en fait on vous met à disposition tout ce qui est nécessaire pour satisfaire un besoin. Dans l'automobile, on n'est pas loin, parce que ce n'est pas juste la location de la voiture. Il y a la location de la voiture, certes, mais également l'entretien.
Il y a tout un service.
Il y a tout un ensemble de services.
Plus généralement, plus généralement, Philippe Moati, c'est plus une question d'argent. On veut tout simplement plus s'encombrer d'un produit, puisqu'on sait qu'on en a un neuf tous les trois ans.
Voilà, alors ça c'est une des motivations qui pousse notamment à louer des produits high-tech. C'est que quand on est geek et qu'on aime avoir la dernière version,
bah, un smartphone par exemple.
Voilà. Donc là, effectivement, ça pousse à la surconsommation. Mais on peut imaginer des formes de location, mais à valeur ajoutée, hein, où finalement, plutôt que de vendre le produit, on vend la fonction qu'on attend du produit. Et là, potentiellement, on a des formes de consommation qui sont plus compatibles avec les enjeux environnementaux, puis ça peut économiser des ressources.
Alors ça, c'est une explication. Philippe Moati, est-ce que ce type de consommation ne s'adresse pas aussi aux plus modestes? C'est quelque chose qui est très développé, notamment chez les classes modestes aux États-Unis.
Oui, effectivement. Et là, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Il faut que choisir un raison de le faire. Parce qu'on attire le chaland avec des mensualités qui paraissent faibles. Hein, donc, on n'a pas besoin de débourser toute la somme tout de suite. Mais finalement, ça revient plus cher. Et ça revient même plus cher que de la vente à crédit. Donc, c'est vraiment cette forme-là de location. Il ne faut pas l'encourager. Et à l'inverse, il faut favoriser ces formes plus évoluées de prise en charge globale du besoin qui peut faire des économies à l'utilisateur et en même temps consommer moins de ressources naturelles.
Mais c'est vraiment condamnable, parce que j'entends déjà Boulanger et les autres qui vont dire bah, il faut bien qu'on rentre dans nos frais.
Et oui, parce que le modèle est celui-là. Ils achètent le matériel, ils le mettent à disposition avec un minimum de valeur ajoutée. Hein. Ils l'installent, ils le réparent quand ça ne va pas, ils le reprennent en fin de location, donc ça génère des coûts. Donc il n'y a pas de miracle. Hein. Il faut bien que ces coûts, qui viennent en plus du coût d'acquisition du produit, soient couverts. Donc il est normal que ça coûte plus cher que l'achat du produit neuf.
Et bien,
c'est pour ça qu'on est face à la limite là, de la location sèche, on va dire sans valeur ajoutée.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Moati d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi.
Et les midi 6, la suite de votre journal avec Raphaël Duchemin et Pierre de Villeneuve.
Nouvelle alerte à Bercy, les ministres Gérald Darmanin et Bruno Le Maire ont reçu des menaces de mort. Ce ne sont pas les premières depuis leur nomination. Cette fois-ci, deux balles de revolver étaient scotchées sur l'une des lettres, l'une d'elles demandant l'abandon de la réforme des retraites. Sinon, je cite, on massacre.
Et la contestation sociale, justement, elle se traduit, Pierre, en deux temps. Aujourd'hui, d'abord les agriculteurs qui protestent dans les rues de Lille. Ils reviennent sur les interdictions d'épandage de pesticides. Souvenez-vous, le ministère de l'Agriculture avait établi une zone limite, c'était il y a quelques mois.
Maximilien Carlier, vous êtes dans les rues de Lille et vous suivez donc cette manifestation de tracteurs.
Oui, effectivement, il y a plusieurs dizaines de tracteurs dans le centre-ville. Les accès à Lille sont bloqués, saturés, impossible de circuler. Les agriculteurs expriment leur colère. Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Voici ce qu'on peut lire sur certains tracteurs. Dans le viseur de ces exploitants, les ZNT, les zones de non-traitement, des parcelles proches des habitations sur lesquelles ils n'ont pas le droit d'épandre des pesticides depuis le 1er janvier. Une mesure que déplore Denis, agriculteur à Avelin.
On doit traiter une partie de notre champ et l'autre partie, on ne peut plus le traiter. C'est faire le travail à moitié. C'est le même que si vous avez des enfants et que, par exemple, vos enfants, ils ont des poux, vous traitez la moitié de la tête et puis le reste de la tête, vous ne le traitez pas, quoi. Ça sert à rien. Les maladies et les mauvaises herbes, ils vont se propager. Ça nous crée des charges et ça ne rapporte plus rien. C'est un manque à gagner pour les exploitations.
Et dans le Nord-Pas-de-Calais, selon la FDSEA, principal syndicat agricole, 6000 hectares de champs sont devenus des zones de non-traitement.
Merci Maximilien Carlier à Lille pour Europe 1. À Marseille, on est reparti dans une opération port-mort depuis début décembre. Ça fait au moins une demi-douzaine de fois que ça se produit. La CGT est partie pour 3 jours de blocage.
Dans un contexte économique, il faut bien le dire, Pierre, hein, qui est de plus en plus tendu. Nathalie Chevance, vous êtes sur place. Quelle est la situation ?
Eh bien, encore une fois, rien ne rentre, rien ne sort. Tout est bloqué. Portuaires, dockers, agents de la réparation navale ont cessé toute activité avec feux de poubelle et barricades installées devant les principales portes. Déjà 100 millions d'euros de pertes chiffrées par la CCI, totalement assumées par Pascal Galéoté, secrétaire général CGT du Grand Port Maritime de Marseille-Fos.
Le patronat doit aujourd'hui prendre conscience qu'on ne s'arrêtera pas et qu'on continuera. Et que les impacts aujourd'hui économiques qu'il mesure, bien évidemment, on en est conscient, mais on n'a pas d'autre choix. C'est notre seul moyen aujourd'hui de faire en sorte que le gouvernement... reviennent sur sa décision avec ce projet de réforme des retraites.
Le blocus va donc encore durer 3 jours et la volonté du Premier ministre de prendre des sanctions ne semble pas décourager Fabrice, agent portuaire.
C'est une tentative d'intimidation, une de plus. S'ils attaquent la Fédération des ports et docks, je pense qu'ils vont être bien reçus.
C'est une menace, ça ?
Non, ce n'est pas une menace, c'est une promesse.
Et avec le monde économique, ici, le dialogue se tend. Stéphane Brousse, à la tête d'une société d'import-export, a déjà perdu quelques centaines de milliers d'euros. Pour lui, cette grève n'a aucune légitimité.
Une fois de plus, c'est la chienlit. C'est-à-dire qu'on se récupère la CGT. C'est un combat par solidarité pour que la CGT puisse prendre un peu plus d'importance par rapport à d'autres syndicats. Et on est dans une lutte interne de syndicats qui n'a aucun intérêt pour l'économie française.
Et le patronat local a rendez-vous vendredi en préfecture pour tenter de mettre fin au piquet de grève.
Merci Nathalie Chevant.
Il est midi 10.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, nous irons à Jérusalem où Emmanuel Macron vient de s'exprimer. La négation de l'existence d'Israël comme État et, dit-il, de l'antisémitisme. A tout de suite.
Il est midi 12, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Emmanuel Macron est à Jérusalem, Pierre. Le président français commémore les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz.
Oui, et à l'instant, des déclarations très fortes du chef de l'État. On l'écoute.
Nous continuerons avec la même détermination et nous lutterons, comme je m'y suis déjà engagé, contre l'antisémitisme, le racisme, tout discours de haine qui vient diviser notre société et en nier les fondements mêmes. L'antisionisme, lorsqu'il est la négation de l'existence d'Israël comme État, est un antisémitisme. Nous avons passé des lois, pris des premières décisions, d'autres vont venir, en particulier qui nous permettront de lutter encore plus efficacement contre les discours de haine et entre autres l'antisémitisme sur Internet.
Voilà des déclarations très fortes à l'instant d'Emmanuel Macron à Jérusalem.
Alors on s'est posé la question de savoir comment était vu l'actuel président par les habitants d'Israël, parce que vous vous souvenez sans doute qu'en 1996, quand Jacques Chirac s'était rendu sur place à Jérusalem-Est, il y avait eu une explosion de colère contre les agents de sécurité israéliens qui ne laissaient pas passer les bateaux palestiniens. Du coup, retour à Jérusalem pour aller au contact des habitants. Reportage signé Clotilde Maravko.
À Jérusalem, auprès des Israéliens comme des Palestiniens, Emmanuel Macron n'a clairement pas la popularité de ses prédécesseurs.
Désolée, je ne le connais pas, j'en ai jamais entendu parler.
Je sais qu'il est jeune, c'est ça ?
Pour les Israéliens, rappelle Mirel, étudiante en architecture, face aux Américains, Emmanuel Macron est absent dans la région.
Je ne l'ai pas vu faire quoi que ce soit qui change la situation ici.
De l'autre côté du mur à Ramallah, en Cisjordanie, dans son salon de coiffure, Mustapha, lui, n'a qu'un président français en tête.
Jacques Chirac, il aimait les Palestiniens. Il nous aidait. Aujourd'hui, la France n'a plus de voix indépendante.
Et bien que la visite prévue par Emmanuel Macron suive pas à pas, ou presque, celle de Jacques Chirac en 1996, Saber Safi, 36 ans, reste déçu.
Ils viennent pas vraiment pour la Palestine, ils font juste un petit stop sur la route.
Israéliens et Palestiniens n'attendent donc pas grand-chose de cette visite de deux jours. Pour eux, avec les gilets jaunes et les grèves, le président français a déjà bien assez à faire chez lui plutôt que de s'occuper d'un conflit qu'eux-mêmes jugent insoluble. Jérusalem, Ramallah, Clotilde Mravko, Europe 1.
La petite pique de Donald Trump du jour. Il menace de taxer à 25% les automobiles européennes en cas d'échec d'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis. Autre déclaration, il qualifie Boeing de grande déception à cause de la crise provoquée par le 737 Max. Enfin, le patron de la Maison-Blanche, et c'est important, demande à Apple d'aider la police à accéder au chiffrement des iPhones. Je rappelle que le président Trump est actuellement à Davos au Forum économique.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 15. La suite de votre journal, Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
C'est parti pour Parcoursup. Le site propose de faire ses choix depuis ce matin.
Oui, et on a 10 choix, ou plus précisément 10 vœux, parce qu'on n'a pas forcément ce qu'on a choisi au bout. 900 000 personnes en effet, des lycéens, mais pas que. Il y a toute une série de personnes qui décident de reprendre leurs études. Victor Delande, on va voir tout ça avec vous. D'abord, il y a un calendrier.
Oui, un calendrier très précis. Les candidats ont jusqu'au 12 mars pour remplir leurs 10 vœux sur la plateforme. Et les élèves trembleront jusqu'au 19 mai, date des premières réponses. 10 vœux à remplir, vous l'avez dit donc, avec à chaque fois quelques lignes de motivation à renseigner sur Parcoursup.fr. Parcoursup, inauguré il y a 2 ans, intègre quelques nouveautés cette année. D'abord, toutes les formations sont désormais disponibles sur la plateforme. 15 000 en tout. Et au petit jeu des formations qui sont le plus demandées, sachez que ce sont les écoles d'infirmiers qui sont loin, très loin de 20. Enfin, dernière nouveauté de taille, la mise en ligne d'un nouvel outil intitulé Parcours Plus. C'est une offre spécifique pour les personnes qui souhaiteraient reprendre leurs études. L'année dernière, ils étaient quand même plus de 110 000.
Et puis, il y a les critiques, hein, bien sûr.
Les principales, bien sûr, critiques sont concentrées sur le stress de cette plateforme, selon une enquête disponible sur Internet et à laquelle 12 000 élèves ont répondu. Ils sont 84% à appréhender Parcoursup. Les deux dernières années, il y a eu aussi quelques couacs, des erreurs techniques corrigées par la suite, qui ont encore plus stressé les candidats. Mais selon Orlane François, présidente de la FAGE, le premier syndicat étudiant, le problème de Parcoursup est ailleurs.
Est-ce qu'à la fin de la procédure, les jeunes qui ont candidaté dessus, les lycéens, les personnes en reprise d'études, des gens en réorientation, auront la formation de leur choix? Et nous, c'est ça qui nous inquiète tous les ans et depuis longtemps maintenant, parce que malheureusement, à la fin de l'année, généralement, il y en a qui restent sur le carreau.
Et l'année dernière, un peu plus de 3% des bacheliers qui se sont inscrits sur Parcoursup se sont retrouvés justement sans aucune proposition.
Merci Victor Delande.
Inquiétude Pierre, du côté des Pyrénées-Orientales, les cours d'eau gonflent, l'Aude est également placée en vigilance orange.
Et direction justement les Pyrénées-Orientales, Saint-Paul-de-Fenouillet, où vous vous trouvez Benjamin Peter, précisément le long de la vallée de l'Aglé qui menace de crues. Des opérations d'évacuation ont eu lieu par précaution et bien sûr on est inquiet pour les prochaines heures.
Oui, parce que vous l'entendez peut-être autour de moi, la pluie tombe très fort et en continu depuis une bonne partie de la nuit. Et on le voit sur la route qui mène jusqu'ici, les fossés qui bordent les routes sont saturés. On voit des petits torrents qui dévalent les reliefs chargés d'une terre boueuse, cette terre rouge typique d'ici. L'Agly, le cours d'eau, est actuellement en vigilance orange crue, comme deux autres rivières du département, ce qui fait craindre au maire de Saint-Paul-de-Fenouillet, Jacques Bayonnat, des inondations.
Tout le vignoble est gorgé d'eau, tout est gorgé d'eau. Et aujourd'hui, l'eau qui tombe assez fort, ça ravine et puis la rivière monte très vite. Donc on a commencé déjà à évacuer, on ferme le boulevard d'Agly, on va évacuer, on ferme le lotissement de Pessigue, qu'on va faire évacuer aussi. Donc les points les plus bas du village, on va les fermer, faire évacuer par prudence. Je demandais donc au service de la mairie, avec la collaboration bien sûr des pompiers, de commencer à aller voir les lotissements et de demander aux gens qui veulent quitter leur maison de venir se réfugier sur la salle des fêtes au foyer rural de Saint-Paul.
Voilà, à noter que dans le collège où des infiltrations ont été constatées tout à l'heure, des élèves ont été mis en sécurité. Mais d'une façon générale, le maire me confiait qu'il était assez pessimiste pour les prochaines heures. Il s'attend à ce que la crue égale, voire dépasse, celle de 2014.
Merci Benjamin Peter à Saint-Paul-de-Fenouillet dans les Pyrénées-Orientales.
Il est midi 19.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, les sorties ciné, c'est mercredi, et le tout dernier défilé haute couture de Monsieur Jean-Paul Gaultier. A tout de suite.
Il est midi 22, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Avec un événement, Pierre, dans le monde de la mode, Jean-Paul Gaultier fera ce soir son dernier défilé de haute couture. Un grand show annoncé au Théâtre du Châtelet.
Sa maison de couture continuera à travailler, mais lui tire sa révérence des podiums. C'est en tout cas ce qu'il promet, après 50 ans d'une carrière unique où l'enfant terrible de la mode, comme on l'a surnommé, a bousculé les codes. Théo Manval.
Eh oui, des robes à plumes façon marinière, au corset, au sein conique, devenu légendaire pour Madonna en 90. Jean-Paul Gaultier, c'est le créateur qui a toujours tout osé. Son ami Amanda Lear.
Il s'amuse avec la mode. Vous savez, la mode, c'est quelque chose qu'on prend un peu trop au sérieux. Gaultier a un côté, justement, très décalé, qui transforme les choses. Je me rappelle, pour la première de Berlin, il m'avait créé un trench coat qui était complètement coupé devant, long derrière, on voyait toutes mes jambes. Alors, évidemment, ça fait un peu scandale sur le tapis rouge.
Jean-Paul Gaultier.
Original dans ses coupes, Jean-Paul Gaultier l'est aussi dans le choix de ses modèles dès les années 80, avec cette petite annonce postée dans Libé, créateur non conforme cherche mannequins atypiques. Il a été le premier à faire défiler des personnes de tous les poids, toutes les couleurs, des mannequins tatoués, des drag queens, rappelle l'historienne de la mode Patricia Romatay.
C'est quelqu'un qui a été inclusif avant tout le monde. Il a travaillé sur les frontières entre le masculin et le féminin. Ça a été le premier à proposer des jupes pour les hommes.
Mais son dernier défilé ce soir n'est certainement pas un adieu. Jean-Paul Gaultier dit déjà préparer un mystérieux nouveau projet.
Ah ben voilà, donc c'est pas terminé. Théo Manval.
Le cinéma. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Mais comment ? Scandale ?
Scandale ! Vous savez, c'est un film qui sort aujourd'hui et qui revient sur l'affaire de harcèlement sexuel qui a fait tomber Roger Ailes, alors célèbre et puissant patron de Fox News. On est en 2016, c'est donc plus d'un an avant l'affaire Weinstein. Et depuis des décennies, Roger Ailes y murmure à l'oreille des grands dirigeants américains, Trump notamment. Sauf que, eh bien, on découvre dans le film que dans le même temps, il a arraché aux présentatrices des faveurs sexuelles en échange de promotion avec, vous allez voir, un stratagème bien huilé.
Je veux vous convaincre que je suis faite pour être à l'antenne, Monsieur Ailes. Je pourrais être un atout phénoménal sur votre chaîne.
Je pourrais faire en sorte que vous deveniez un élément phare de notre groupe. Mais je dois être sûr que vous êtes loyal.
J'ai besoin que vous trouviez un moyen de me le prouver.
Voilà, regard libidineux à l'appui. Tout le monde savait, hein, mais personne ne disait rien jusqu'à ce que l'une des présentatrices, Megyn Kelly, décide de tout balancer. Elle est incarnée à l'écran par Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie, composent également ce trio de femmes qui va renverser Roger Ailes. Et la force du film, c'est à la fois que l'on voit le processus, évidemment, qui va les pousser à dénoncer leur patron, mais on voit aussi comment elles sont marginalisées au sein de Fox News, notamment par toute la cour de Roger Ailes. C'est ce qui se passe souvent dans les entreprises. Donc voilà, c'est un film qui est très pédagogique, qui est très romanesque. C'est du cinéma grand public, et qui montre le courage de ces femmes. Allez le voir, ça s'appelle donc Scandale.
Changement de décor avec Adoration, porté par le jeune acteur Thomas Gioria.
Oui, qu'on avait découvert dans Le Glaçant jusqu'à la garde. Je ne sais pas si vous en rappelez, il jouait l'enfant du couple Léa Drucker, Denis Ménochet. Alors dans Adoration, il joue Paul, un jeune garçon qui va fuguer avec Gloria. C'est l'une des patientes de l'hôpital psychiatrique dans lequel travaille sa maman. Va se nouer entre eux une belle histoire d'amour à travers un récit initiatique que l'on va suivre, mais il y a toujours cette question en fond, Gloria est-elle victime d'un complot comme elle le prétend, ou est-elle réellement atteinte de problèmes psychiatriques? On va le découvrir au film de ce film, qui est un film poétique, violent par moments, à la photo magnifique, c'est ultra réaliste, c'est très lumineux. Voilà, c'est un film, je dirais, pour les cinéphiles, ou en tout cas, il faut aimer un petit peu le cinéma, mais c'est à voir, ça s'appelle Adoration. On va mettre 3 étoiles sur 5 et 4 à Scandale.
Merci Mathieu Charrier.
Merci Pierre, vous revenez à 13h pour un nouveau journal sur Europe 1. Il est midi 25. Europe 1.